Bonsoir et bienvenue à ce premier débat en vue des élections communales du 23 octobre prochain dans le canton du Jura. Ce soir, place à la course à la mairie de Haute-Saône et en ma compagnie Michel Léoni. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous nous trouvons à l'école primaire de Basse-Cour pour un débat qui est à vivre en direct sur RFJ et RFJ.ch.
Pendant une heure, on va débattre en public avec les quatre candidats qui sont en lice pour succéder à Jean-Bernard Vallat. Nous allons évoquer les finances, le développement démographique et économique de la commune, mais aussi l'habitat et les projets, y compris bien sûr, très attendu, celui de géothermie profonde. C'est le moment d'accueillir nos invités. Bonsoir Valérie Sutterman.
Bonsoir.
Bienvenue à ce débat. Bienvenue à vous également Étienne Dobler. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Raoul Yegui.
Bonsoir.
Enfin bonsoir Eric Dobler.
Bonsoir.
Bienvenue à tous les quatre. Et pour commencer ce débat, on vous propose très simplement à chacun de vous présenter en quelques secondes. Honneur à vous peut-être Valérie Sutterman.
Oui, merci. Alors, je m'appelle Valérie Sutterman, j'ai 48, bientôt 48 ans. Je suis une boucle de Seux, j'ai habité pendant 17 ans à Seux, et puis depuis une année, je suis un petit long coup, parce que j'habite donc depuis une année à Basse-Cour. Je suis maman de deux enfants, je suis également infirmière, j'ai arrêté donc ma profession pendant 19 ans, et j'ai fait une formation de réintégration professionnelle et me voilà de nouveau sur les rangs du personnel soignant. Je suis conseillère communale depuis 4 ans maintenant et avant ça j'étais conseillère générale durant une année. Voilà.
Merci à vous Étienne Dobler.
Voilà, donc Étienne Dobler, je suis représentant du Parti Socialiste et des Verts lors de cette élection. J'habite Glovelier depuis 63 ans et quelques mois. Si on fait abstraction d'un bref séjour à Delémont, j'ai toujours habité donc le village de Glovelier. Au niveau de mes mandats politiques, je suis conseiller communal à Haute-Saône depuis 9 ans et quelques mois également. Par le passé, donc, dans mon village de Glovelier, j'ai occupé différentes fonctions au sein de commissions, notamment de la commission des finances et de la commission de l'environnement. Et par le passé, donc, j'ai été surtout actif au niveau associatif, mais pas d'autres mandats politiques. Je suis donc père de deux enfants adultes et puis je vis en couple avec mon ami.
Raoul Yegui, c'est à vous.
Alors je m'appelle Raoul Yegui, j'ai 53 ans pour quelques jours encore. Je suis marié, papa de trois enfants de 21, 18 et 16 ans, aussi dans quelques jours. Au niveau politique, je suis élu au Parlement jurassien depuis 2009, actuellement suppléant pour le Parti Vert Libéral. Je suis conseiller communal. J'ai été conseiller communal à l'ère du village de Basse-Cour. Que dire encore ? Je crois que j'ai fait plus ou moins tour. Au niveau hors politique, j'étais passionné de sport, de squash et de natation. Vous voyez, les spectateurs aussi, mais pas les auditeurs, ça fait assez longtemps que j'ai arrêté le sport. Mais je suis encore un fervent supporter du FC Glovelier.
Et enfin, on va passer à votre voisin, Eric Dobler.
Oui, merci. Je suis né en 1960, je suis marié, je suis papa de deux filles adultes. J'ai travaillé pendant près de 20 ans à la police judiciaire, 10 ans à Genève, 10 ans à Delémont. Et depuis les années 2000, j'ai changé mon orientation professionnelle et je suis cadre dans une grande compagnie d'assurance au service des sinistres. Mon engagement politique pour le Parti démocrate chrétien date du début des années 90, donc ça fait plus de 30 ans. J'ai régulièrement siégé au conseil général de Feu, la commune de Basse-Cour. J'ai ensuite siégé au conseil communal de Basse-Cour pendant 12 ans. Je suis revenu au conseil général de Haute-Saône jusqu'en 2015. Et en parallèle, j'ai eu le plaisir de siéger au Parlement jurassien durant 15 ans. J'ai été vice-président de la commission de gestion et des finances. J'ai été président de la commission de l'économie. Et j'ai eu l'honneur de présider le Parlement jurassien en 2000.
Éric Dobler, on reste avec vous. Alors, vous avez le désavantage de ne pas siéger au Conseil communal, contrairement à vos trois concurrents. Ce déficit d'expérience ne vous fait pas peur ?
Alors, ce déficit d'expérience ne me fait pas peur. J'ai l'expérience de l'exécutif. J'ai une grande expérience du législatif et puis j'ai surtout une vision que peut avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur en ayant regardé comment fonctionnait l'exécutif, comment les conseillers communaux géraient leur dicastère. Donc moi, je n'ai pas de bilan à défendre, j'ai plutôt une vision par rapport à la fonction.
Étienne Dobler, on a connu depuis la fusion une commune en main PCSI. Pourquoi est-ce qu'il faudrait virer davantage à gauche désormais ?
Alors, je pense qu'au niveau communal, hein, le parti n'a pas forcément une importance primordiale. Hein, c'est simplement, disons, fort de mon expérience, puisque, comme j'ai dit précédemment, 9 ans et demi de conseil communal, on a vu grandir cette commune. Hein, on l'a accompagnée durant toutes ces années. Et puis maintenant, ben, on peut comparer ça un peu comme à un enfant qu'on voit grandir. Et puis maintenant, ben, il est dans l'adolescence. Il lui reste encore, il faut encore le booster un bon coup pour qu'il puisse se positionner comme vraiment une commune centrale au niveau du canton du Jura. Raison pour laquelle je suis motivé à reprendre cette fonction.
Raoul Yegui, vous vous présentez pour ces élections communales sous l'étiquette du Parti Vert Libéral, alors que vous siégez actuellement sous celle de Haute-Saône-Avenir. À quoi est-ce que vous jouez ?
Je suis membre de Haute-Saône-Avenir, qui est un mouvement, qui n'est pas un parti, comme je pourrais être membre de la Fouchette Verte ou je ne sais quoi. Haute-Saône-Avenir, c'est un mouvement qui a toujours annoncé, dit qu'il voulait travailler avec les autres. Malheureusement, ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Il y avait même, on a vu que enfin, ça s'est plus ou moins mal passé en début de législature avec une sorte de ligue contre ces importuns de Haute-Saône-Avenir. Aujourd'hui, j'appartiens au PVL. Haute-Saône-Avenir est prêt à travailler avec les gens de n'importe quel parti politique et avec le PVL. Nous avons décidé de porter une liste au conseil communal avec des candidats du Parti Vert Libéral. Et si je suis candidat à la mairie, c'est avant tout ici pour qu'on parle un tout petit peu du Parti Vert Libéral, parce que je vous soupçonne de ne pas l'avoir fait si je n'avais pas été là.
Valérie Solterman, une question pour vous désormais. Alors, avoir un conseiller communal du même mouvement citoyen que vous, on vient d'en parler, pour la mairie, ça ne vous fait pas peur, quelque part, un peu d'ombre peut-être ?
Pourquoi de l'ombre ? Parce que M. Yegui est un peu plus costaud que moi ? Non, je ne pense pas.
C'est pas ce que j'ai dit.
Non.
Un candidat de plus, quand même.
Oui, non, écoutez, alors, j'ai oublié de dire dans la présentation, mais je suis cofondatrice de HSA, donc Haute-Saône-Avenir, hein, un mouvement citoyen. Je pense que, il y a 5 ans, on s'est créé parce qu'il y avait un désaccord au niveau de l'enseignement, au niveau politique de l'enseignement. Donc, au lieu de se plaindre, on a créé un parti politique pour avoir aussi la parole. Et il y a 5 ans, on nous a dit que c'était à but électoraliste, qui était faux, totalement faux, hein. Aujourd'hui, je peux le dire. Et puis, je suis très, très fière de faire partie de ce groupe qui se pose là, en tant du point de vue politique, et qui a le droit aussi à la parole. Voilà.
Alors, on va à présent entrer dans le vif du sujet. On vous propose de parler finances pour commencer. Les finances de Haute-Saône se portent plutôt bien depuis la fusion. Un déficit a toutefois été rapporté pour la première fois en 2020, ainsi qu'en 2021 au compte général. Raoul Yegui, est-ce que des mesures sont nécessaires en l'état actuel ?
Oui, elle se porte plutôt bien. Elle se porte plutôt bien. C'est quand même compliqué. Vous savez que les charges liées avec le canton ne cessent d'augmenter. On cherche toujours comment financer les projets. C'est toujours difficile. Moi, je pense qu'il y a à se battre pour améliorer la santé financière de la commune. Elle est endettée. Quand même, comme la plupart des communes jurassiennes, certes, mais c'est quand même pas confortable.
On doit faire attention, c'est ce que vous dites.
Oui, et puis trouver des solutions pour ramener de l'argent.
Étienne Dobler, au regard des chiffres qu'Alexandre vient de mentionner, est-ce que justement on doit adopter une politique d'investissement plutôt prudente désormais à Haute-Saône ?
Alors, jusqu'à présent, donc, ça a toujours été le cas. Hein, on connaît notre situation financière. Il est clair que des investissements sont nécessaires. On s'est quand même rendu compte depuis 2013 que notre situation financière s'est nettement améliorée, ce qui nous a permis justement de réaliser ces investissements. Et puis je pense qu'en 2013, au moment de la fusion de la commune, peu de personnes auraient pensé que de tels investissements puissent être réalisés au niveau de la commune. Plus de 30 millions, ici je ne parle que du patrimoine administratif, mais plus de 30 millions ont été investis depuis le début de la législature, et ceci sans augmenter la dette. C'est quand même un élément qui est important. Et puis maintenant, bien évidemment, cet équilibre, il est précaire, on ne peut pas se permettre de folie, et puis les débats qui ont lieu chaque année pour l'établissement du budget, je peux vous dire qu'ils sont serrés. Ils sont serrés. Des fois, on doit faire plusieurs séances pour arriver à maîtriser nos charges. Mais c'est sûr, c'est certes que c'est une de nos préoccupations principales. Et puis, si j'ai la chance de poursuivre mon mandat, on travaillera avec la même rigueur.
Valérie Solterman, voilà, au niveau des finances, est-ce qu'il faut envisager des mesures particulières, peut-être mieux prévoir les charges aussi dans le futur?
Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur par rapport aux finances. Hein. Vous savez que moi, je suis à côté de mon collègue des finances. Donc là, je vais plutôt parler de principe, ce qui se passe dans la commune de Haute-Saône. Moi, ce qui m'a posé problème en tant que conseillère communale, c'est il y a un programme de législature qui a été établi dans un premier temps. On a eu un peu de difficulté à l'établir, ce programme législature. Il y a un plan financier qui est venu assez tardivement, et ça, je trouve dommage, parce que c'est de pair. Au niveau de l'exécutif, un programme de législature avec un plan financier ou une planification financière, elle est importante. Et là, au sein du conseil communal, nous ne sommes pas parvenus à une planification financière. Nous nous sommes arrêtés uniquement au niveau de la planification des investissements, et puis... ça pose problème, parce que j'ai le sentiment qu'on n'a pas de vision, on n'a pas d'objectif commun. Donc c'est un peu une politique que je qualifie de champêtre. Et puis, je pense qu'il est important de... Et oui, ma foi, c'est comme ça.
Vous menez une politique champêtre, Étienne Dobler?
Pardon?
Vous menez une politique champêtre?
Je laisse Madame Solterman... maître de ses propos, hein, simplement quand même une remarque, hein, une planification financière, on en a une, hein, c'est clair. Nos investissements, on les planifie, on a des investissements qui sont planifiés pour les 7 prochaines années. D'ailleurs, comme l'exige MCH2, hein, MCH2 oblige les communes à faire une planification financière. Déjà, lors de la première législature, en collaboration avec notre prestataire BDO, qui donc nous aidait pour la mise en place de la commune d'Haute-Saône, on avait travaillé ces sujets-là. Et puis, je regrette juste, par exemple, quand on vient dire qu'on n'a pas de vision à long terme, encore pas plus tard que lundi matin, lors de la séance du Conseil communal, Mme Solterman, malheureusement, était absente, M. Yegui peut en confirmer, on a planifié des investissements pour les 5 prochaines années. Au même titre, récemment, j'ai rencontré donc, les chefs de service pour établir les budgets. Pour le dicastère de Mme Solterman, le chef de service était présent. Malheureusement, Valérie Solterman n'était pas présente. Il y avait des investissements qui étaient prévus pour les 3-4 prochaines années. Certains, par rapport à des priorités, ont dû être déplacés. Et ceci se fait dans le cadre d'une planification financière, bien évidemment, en tenant compte toujours de nos recettes.
Valérie Solterman, rapidement, vous voulez réagir, après on va passer aux autres candidats.
Oui, alors je remercie de relever mon collègue mes absences. Et effectivement, hein, je travaille en tant qu'infirmière, donc c'est difficile parfois de concilier. Et c'est clair que je dois aussi mettre mes jours, hein, de congé, et on ne tient pas forcément compte aussi de mon emploi du temps. Quand M. Dobler dit qu'on a une planification financière, effectivement, des investissements, mais une vraie planification financière, elle estime l'évolution des charges, hein, et des revenus, et puis elle émet des hypothèses. Et on n'en est pas là. On doit se projeter aussi dans l'avenir, et là, on n'en est pas là. Voilà, c'est tout. Une réalité.
Éric Dobler, globalement, on nous dit qu'il faut faire attention, on ne peut pas investir n'importe comment. Finalement, on est une commune qui se développe, parce que ce n'est pas justement le moment d'injecter de l'argent.
Alors, vous avez raison, je suis très heureux de voir ces débats internes entre les deux conseillers communaux qui ne sont pas d'accord sur les mêmes façons de procéder et de tenir un plan d'investissement. Maîtriser les dépenses, c'est un événement très important. On est parti avec une commune fusionnée, avec des structures qui n'ont pas forcément été consolidées, et ça a été difficile. La diminution des coûts, la diminution des charges à l'époque n'était pas un objectif de la fusion. Donc la première législature a été relativement compliquée. Moi, je me suis basé, parce que je ne suis pas dans le sein des saints, je ne sais pas ce qui se passe autour de la table du Conseil communal, je ne sais pas comment se passent les discussions, mais d'expérience par rapport à l'expérience cantonale, je sais qu'effectivement, c'est toujours très difficile de faire une planification financière, respectivement de faire un plan des investissements. Mais je me suis basé sur le rapport pour avoir un peu une idée de la situation de la commune, sur le dernier rapport sur les finances qui a été publié par le canton en 2020. Donc j'imagine que ça a peut-être évolué depuis. Et j'ai relevé quand même 3 éléments qui sont, je dirais, quand même peut-être un peu inquiétants pour la commune. C'est que notre quotient d'endettement est élevé, que notre degré d'autofinancement est problématique et que le ratio des dettes par rapport aux revenus est critique.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit économiser désormais et plus lancer de projet?
Clairement, il faut avoir un plan d'investissement, il faut fixer des priorités, il faut faire des arbitrages, et puis il faut décider en fonction de nos moyens.
Olivier, on ne fixe pas assez de priorités actuellement?
Je voulais réagir, voilà, parce que j'ai finalement parlé en premier, puis d'écouter les propos des collègues, c'est intéressant. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. Chaque fois qu'il y a des élections, puis qu'on parle de ce qu'il faut faire pour les finances, tout le monde a les mêmes mots. Ceux-là, par exemple, c'est un financier, plus que moi, il était en charge des finances à basse-cour, mais on sait que le problème, c'est que beaucoup, les règles sont fixées par le canton, les factures nous sont adressées par le canton, les charges liées, on n'y peut pas grand-chose et la marge de manœuvre est faible. Néanmoins, il y a quand même des choses à faire. On a une commission de prospection pour les entreprises qui n'a jamais vraiment fonctionné. On devrait trouver de nouveaux bons contribuables pour cette commune et on n'a jamais fait l'effort. On ne l'a jamais fait parce qu'on n'a pas le temps. Et dire que la commune, les finances vont bien, c'est un peu difficilement audible pour tous les gens qui font partie de sociétés avec lesquelles on a serré les boulons partout, les sociétés. On avait dit que la commune fusionnée continuerait de soutenir les sociétés, manifestement. Alors on les soutient encore, mais moins qu'avant. Le foot, vous êtes footballeur, les clubs ont refusé de signer, la convention, enfin, toutes les sociétés de musique sont en difficulté. De dire que les finances vont bien, c'est disons que voilà,
on reviendra sur les différents projets.
Alors il y a justement peut-être des priorités à fixer. Est-ce que, d'après vous, quels sont finalement les dossiers les plus urgents? Dans quel domaine il faut investir en particulier? On commence peut-être avec vous, Valérie Solterman.
Alors, je suis en charge des services communaux, donc je m'occupe donc de la gestion de l'eau potable. On a sorti donc le plan général d'alimentation en eau, le PGA. Mais c'est clair, hein, on voit à l'heure actuelle, je pense qu'on a vu les faiblesses qu'on avait au niveau du réseau, qu'il faudra corriger d'une part, hein, et puis éventuellement rediscuter au niveau des taxes. Puis ça, c'est des discussions qu'on doit avoir au sein de l'exécutif. Bien évidemment, le législatif devra se positionner par rapport à ça. Mais ce sera pas simple. Et oui, je souhaite qu'on mette l'accent sur l'alimentation en eau potable parce qu'on a des faiblesses à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres thématiques. Et puis, je pense que c'est important pour l'exécutif d'anticiper. Et on manque clairement d'anticipation, on a la tête dans le guidon, on fait beaucoup trop d'opérationnel, et puis clairement, ça ne va pas.
Raoul Yegui, Haute-Saône, c'est la deuxième commune du canton, pourtant, voilà, il n'y a pas de patinoire, pas de piscine, pas de salle culturelle. En termes d'infrastructure, est-ce que le moment n'est pas venu peut-être d'entamer certaines réflexions ? Pour avoir un grand projet, de nouveaux projets pour la commune.
C'est toujours un exercice difficile ici. On passe des finances difficiles et maintenant vous voudriez qu'on construise une piscine, une patinoire et quoi encore, je ne sais plus.
Une salle culturelle.
Bon. Le moment d'investir. Moi, je pense que c'est le moment d'investir dans les énergies renouvelables. Puisque c'était la question de tout à l'heure, le Parti Vert Libéral a fait des propositions de couvrir les autoroutes de panneaux solaires, ça nous concerne moins, mais des propositions d'agrivoltaïque. On a installé quelques toits solaires pour la commune, c'était vraiment un premier petit pas, mais chaque toit rapporte de l'argent en plus de produire de l'énergie. Et je pense qu'on doit investir aussi dans le marketing. Je vous disais avant, la commune, elle est finalement notre commune, c'est la deuxième du Jura, elle est idéalement placée. Elle n'est malheureusement pas dans le pôle de développement retenu par le canton, quand bien même on a la plus grande augmentation de démographie, je crois, ces dernières années. Mais faire un peu de marketing et rendre la commune sexy et y faire venir des contribuables, parce qu'il n'y a pas...
Éric Dobler, au niveau des priorités, des investissements, des dossiers les plus urgents, c'est lesquels selon vous ?
Pour moi, le dossier le plus important, c'est le dossier de l'énergie. Donc, j'entends dans le dossier de l'énergie tout ce qui a trait à l'énergie, avec l'eau, avec l'électricité. Et ça, c'est des projets que l'on doit entreprendre en priorité.
Vous avez des exemples, peut-être ?
Alors, le cadre, je dirais, photovoltaïque, par exemple. On pourrait imaginer que la commune fasse un pool d'achat avec des particuliers pour obtenir des prêts respectivement, des prix plus avantageux pour les cellules photovoltaïques. Il pourrait y avoir ce type de projet qui n'implique pas qui n'impacte pas véritablement les finances communales, mais où la commune peut servir d'interface et de facilitateur par rapport à ces projets.
Étienne Dobler, en matière d'énergie, la commune doit en faire plus, vous partagez ?
Bien évidemment, ça fait partie de notre programme, hein, une politique énergétique ambitieuse, on l'a relevé. Je vais peut-être juste revenir deux minutes sur ce que disait Éric Dobler tout à l'heure au niveau des finances communales. Un élément que je n'ai peut-être pas dit, c'est qu'effectivement, quand on a commencé, la commune était dans une situation financière beaucoup plus difficile que maintenant, puisqu'on avait un découvert au bilan de 3,5 millions. Ces 3,5 millions de découverts au bilan, c'est clair que c'était un héritage des anciennes communes. Sur les 5 communes, une seule n'était pas en découvert au bilan, c'était Glovelier. Il a fallu résorber dans un premier temps ce découvert au bilan. Maintenant, nous avons, comme je l'ai dit, fait plus de 30 millions d'investissements, résorbé ce découvert au bilan, et nous avons maintenant une fortune au bilan. Donc il est bien clair que par rapport aux revenus fiscaux qu'on a, etc., on ne peut pas tout améliorer d'un coup. Mais il est évident, qu'on le veuille ou non, la situation financière de la commune s'est nettement améliorée par rapport à 2013. Maintenant, par rapport à cette politique énergétique, évidemment, des panneaux solaires, hein, d'ailleurs, il y a maintenant plus de 2 ans, le Conseil général a voté un crédit pour installer des panneaux solaires sur les bâtiments communaux. Malheureusement, ce projet n'a encore pas abouti. On a des entreprises maintenant qui ont des projets intéressants. Hein, moi, je veux parler maintenant aussi au niveau de Glovelier, hein, l'hydrogène. Hein, l'hydrogène qui est une énergie qui pourra être intéressante par la suite. On l'a vu aussi, c'est quelque chose de très attractif, puisque des entreprises qui cherchent maintenant à s'implanter sur la future ZAM de Glovelier font un lien direct avec cette énergie verte. Donc on voit qu'aussi on a de beaux projets au niveau énergétique, mais il est bien clair, alors moi je partage tout à fait l'avis, notamment des chambres fédérales, des décisions qui ont été prises ces derniers jours. Il faut mettre un sacré coup d'accélérateur au photovoltaïque, ça c'est sûr.
Alors vous le dites, et on le comprend, vous êtes les quatre, favorables à ce que la commune se développe encore, à attirer des habitants. Néanmoins, quand on regarde de plus près, les terrains à bâtir sont une denrée rare aujourd'hui à Haute-Saône. En gros, Éric Dobler, est-ce qu'on veut donner envie aux gens de venir et qu'on n'a pas grand-chose à donner? Est-ce qu'on a les yeux plus gros que le ventre, quelque part, ici?
Ah non, je ne crois pas qu'on a les yeux plus gros que le ventre. Je crois qu'on a beaucoup de choses à donner. C'est une commune où toutes les infrastructures sont là. Vous avez des médecins, vous avez toutes les pharmacies, vous avez des commerces. Donc, les gens ont envie de venir. Il y a des sociétés locales qui sont très actives.
Mais en matière d'habitat?
Mais en matière d'habitat, effectivement, on est au bout des terrains à bâtir. On attend avec impatience le nouveau PAL qui doit arriver dans 2 ans et puis qui donnera de nouvelles zones à bâtir pour les futurs contribuables, les futurs citoyens qui viendront habiter à basse-cour. Mais je pense qu'il y a un autre aspect par rapport à ça. On doit avoir le souci d'un développement qui est coordonné. On ne doit pas se développer à tout va pour se développer. Je crois qu'on doit avoir un développement qui est coordonné et on doit densifier. Identifier l'habitat.
Et densifier comment ?
Ben on doit réhabiliter les centres anciens, on doit favoriser le maintien de la population au centre des différents villages, plutôt que de chercher à avoir des visions expansionnistes à l'extérieur sur les terres agricoles.
Étienne Dobler, réhabiliter les centres anciens, c'est aussi votre clé pour amener de nouveaux habitants à Haute-Saône ?
C'est clair, mais il faut voir tous les obstacles auxquels on se heurte, hein. Périmètre réservé aux eaux, etc. Donc, c'est quelque chose de très, très compliqué. Par contre, je voudrais juste rebondir encore sur ce qu'a dit Éric Dobler à nouveau. Au niveau du PAL, hein, il faut quand même savoir que le PAL, le plan d'aménagement local, c'est la colonne vertébrale de Haute-Saône. Et puis, la commune, actuellement, on travaille pour un PAL au niveau Haute-Saône, pas uniquement basse-cour. Hein, Éric a parlé de basse-cour. Donc, il est bien clair que nous, on prévoira des zones dans l'ensemble des villages, notamment Courfève, Glovelier, Basse-Cour, pour un développement démographique. On pourra peut-être venir après, par la suite, au niveau du développement économique, mais au niveau du développement démographique, il est clair qu'au niveau du PAL, on a prévu des secteurs à viabiliser sur l'ensemble des 3 villages. Pour Souls et Indervelier, on pourra aussi en parler après, puisque nous avions viabilisé, il y a maintenant 4-5 ans, 6 parcelles à Souls. Ces 6 parcelles, malheureusement, à l'heure actuelle, elles n'ont pas trouvé preneur. Et puis, il est bien clair que tout pendant que ces parcelles-là sont encore disponibles, le canton ne va pas libérer de nouvelles zones. C'est une politique. Il faut savoir qu'au niveau de l'aménagement du territoire, la marge de manœuvre de la commune est extrêmement étroite. On est carrément sous tutelle de la part du canton, puis on ne fait absolument pas ce qu'on veut. Et puis, c'est une promesse qu'on avait faite lors de la première législature, de prévoir des zones à bâtir sur l'ensemble d'Haute-Saône. Cette promesse a été tenue. On a fait une zone à Souls, avec 6 parcelles. 7, c'est possible, 7 parcelles à construire. On avait également un projet sur Indervelier. Tout pendant que les zones à bâtir à Souls ne sont pas occupées, le canton ne nous autorise pas à développer sur Indervelier. Donc, il est bien clair que nous, notre préoccupation, c'est de travailler sur l'ensemble des 5 villages que compose Haute-Saône, mais on n'est pas complètement maître du dossier.
Valérie Solterman, comment est-ce qu'on peut faire finalement pour repeupler Souls, Indervelier ?
Se montrer proactif, hein, dans un premier temps, et dynamique. Ça, je pense que ça manque un petit peu au sein du conseil communal. Hein. Il faut aller au contact de la population, au contact aussi des instances cantonales. Mais c'est vrai que pour nous, là, on tourne, on n'a pas de politique dans différents domaines. C'est vrai qu'on a mené à bien le PAL, qui est une procédure très, très intéressante. On a pu amener, et puis les gens aussi ont été invités à amener des améliorations pour la population de Haute-Saône, mettant au niveau de la mobilité douce, qu'au niveau des transports, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et on est aussi contraint par des dispositions légales, comme l'a dit mon collègue, le PRE, la LAT, qui fait qu'on doit densifier le domaine bâti. Donc voilà, mais c'est pas chose facile, mais pour ça, on doit se montrer proactif et dynamique.
Raoul et Guy, vous partagez, il faut être proactif pour tenter d'inciter les gens à aller habiter nos centres anciens, à habiter également, pourquoi pas, à Souls, Indervelier.
Je pense qu'il y a des gens qui ont l'envie d'habiter dans des villages comme Souls et Indervelier, qui sont des villages où il n'y a pas de brouillard, d'une part.
Et ce
c'est pas un village, ce... Mais il n'y a pas de brouillard non plus. Ce sont des villages qui ont des atouts. Je disais avant, il faut faire du marketing et mettre en avant les atouts. On a tous les atouts. On a les atouts des villages avec peut-être les centres plus denses et les écoles et les commerces. Et on a les atouts à Indervelier et Souls, qui sont plus des atouts nature. Et je pense que c'est de nature à attirer des habitants.
Mais on les vend mal aujourd'hui ?
On fait pas de marketing du tout. Et je trouve que c'est dommage.
Alors, on a parlé de développement démographique. Parlons à présent de développement plutôt économique. Depuis la fusion, 25 nouvelles entreprises se sont installées à Haute-Saône. Vous avez l'impression que la commune peut et doit encore faire mieux, Étienne Dobler ?
Alors, oui, effectivement, parce qu'après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est quand même les entreprises qui décident où elles souhaitent s'installer. Hein. Alors là, on a pu entendre qu'on n'était pas actif au niveau des autorités communales ou proactif au niveau du recrutement et autres. Au niveau de la promotion économique, donc on avait créé une commission l'année dernière qui devait s'occuper de ces projets-là. Et puis là, c'est clair qu'actuellement, notamment avec le développement de la ZAM à Glovelier, on a des projets qui vont bien au-delà de nos espérances. Hein. On a des entreprises donc, qui sont intéressées à venir s'installer, qui vont donner beaucoup d'emplois sur Haute-Saône. On a différents projets qui, bien évidemment, pour l'instant, donc, n'en sont qu'au stade de projet. Mais si ces projets devaient se réaliser dans les années à venir, parce que là, de nouveau, la même chose, hein, il y aura des grosses procédures au niveau de l'aménagement du territoire, des différentes étapes à passer à ce niveau-là. Mais si ces projets pouvaient se réaliser, on est proche des 100 millions d'investissements qui pourraient être réalisés sur Haute-Saône. C'est quand même quelque chose de conséquent. Alors moi, je veux bien qu'on entende dire on n'est pas proactif, on n'est pas ceci, on n'est pas ça, mais les résultats sont quand même là et ils sont probants. Quand on parle de plus de 300 emplois pour une entreprise sur le site de Glovelier, avec 60 millions d'investissements plus une autre entreprise qu'on prévoit à 30, la commune d'Haute-Saône peut, avec son cash flow, investir à peu près 3 millions par année. Là, on parle de 90 à 100 millions.
Valérie Solterman, sur cet aspect des entreprises, la commune peut et doit faire plus ?
Oui, bien évidemment. Là aussi, il a fallu que les législatives se positionnent par rapport à ça, en termes de promotion économique. De faire une séance, je ne pense pas que ça se montre d'être proactif. Hein. Donc il a fallu qu'on stimule une fois de plus l'exécutif pour passer un petit peu à l'action. Vous parlez de la ZAM, ben c'est une bonne chose, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, en tant que conseillère communale, j'ai peu d'informations en lien avec ça. Je suis obligée presque d'aller aux séances pour la population, pour être au courant de ce qui se passe à la ZAM. Donc c'est des données qui me manquent, j'avoue, au sein de l'exécutif. J'avoue que je préférerais débattre de ce genre de choses que de devoir, pendant une demi-heure, choisir l'essence d'arbres dans certaines régions, ce que j'estime n'est pas forcément notre rôle. On a des personnes compétentes au sein de l'administration communale pour le faire. Donc voilà, on pourrait gagner un petit peu du temps dans ce genre de dossier.
Raoul Yegui, qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux que maintenant, finalement, aux entreprises? Donc, on a parlé de la ZAM, la ZAM 2 aussi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en plus?
Moi, je parlais de marketing pour faire venir les habitants et je pensais notamment aux professions libérales. Effectivement, la commune est bien placée. Elle est au cœur du Jura. Elle a une autoroute et des sorties d'autoroute qui donnent accès directement aux zones industrielles de Glovelier. Et nous avons des entreprises qui manifestent le souhait de venir s'implanter ici, et c'est très bien. Je fais le reproche à personne quand je dis qu'on manque de proactivité. Je l'ai dit d'ailleurs au début, que ça fait qu'on ne le faisait pas, qu'on ne faisait pas de marketing et qu'on ne faisait pas de prospection parce qu'on n'avait pas le temps. Et ça amène une autre réflexion, je ne sais pas si vous l'avez prévu tout à l'heure, sur l'organisation politique de la commune.
Pas forcément, non.
Alors, du coup, je fais une parenthèse maintenant. On n'a pas le temps. Nous sommes neuf autour de la table avec le maire. On a la tête dans le guidon. On parle de la gestion des affaires courantes, effectivement, des essences des arbres, des sortes de volets qu'on veut mettre sur tel ou tel bâtiment. Et puis ce n'est pas le rôle d'un exécutif. Et l'idée de diminuer le nombre de conseillers communaux, elle se discute ici depuis un certain temps, passer avec le maire de 9 à 7, c'est une idée. Je pense que ce n'est pas une idée suffisante parce qu'on va faire la même chose avec moins de gens et puis on va rationaliser un tout petit peu le travail. Et je pense, moi, qu'on doit passer à 5 conseillers communaux qui font du travail de conseillers communaux d'exécutif et qui ne s'immiscent pas ou plus dans l'opérationnel. Et là, on va gagner en
efficience.
En efficience, merci.
Pour en revenir à la question de base, vous dites qu'il faut faire du marketing pour attirer les entreprises. Aujourd'hui, on a les moyens de proposer...
Pour attirer des contribuables, je pensais principalement aux professions libérales. Je disais, les entreprises, on a la chance que la ZAM 2 et la situation géographique de la commune et les accès font que les entreprises sollicitent l'implantation ici, et c'est très bien.
Éric Dobler, comment rendre la commune encore plus attractive pour les entreprises?
Ben, je crois qu'il faut que, tout le monde l'a entendu ce soir, je crois qu'il faut que le conseil communal sorte la tête du guidon. Donc, effectivement, vous vous occupez de l'opérationnel, vous devriez être dans le stratégique, mais j'entends, il faut jeter la pierre à personne, c'est votre faute, c'est vous qui devez sortir la tête du guidon, c'est vous qui devez aller de l'avant avec ces projets. Alors, c'est clair, mais bon, Valérie Solterman, je pense qu'ils vous l'ont dit peut-être, ils l'ont peut-être dit ce que vous n'avez pas entendu lors d'une séance où vous n'étiez pas là, c'est peut-être ça. Mais sans vouloir.
Je travaille, je suis infirmière.
Oui, j'ai compris.
C'est très élégant, messieurs. Je vous remercie infiniment.
Non, c'était juste pour dire que ça avait peut-être été dit lors de l'une de vos absences. Je n'ai pas dit nombreuses,
Monsieur Dobler, vous savez combien de fois j'ai loupé la séance du conseil communal? Très peu de fois. Et les peu de fois, c'est parce que j'étais malade.
Enchaînez, monsieur Dobler.
Oui. Voilà, donc effectivement...
On va prendre de la hauteur, monsieur.
Parenthèse fermée, mais je crois que, comme je l'ai dit, le conseil communal a une commission marketing, je crois qu'il y a une commission qui a été nommée, donc il faut qu'elle commence à faire son travail, il faut qu'elle commence à se réunir, et pour l'instant, on n'a encore rien vu, et je crois que le travail commence par là.
Valérie Solterman, c'est qu'une question de marketing, d'après vous?
Mais c'est une question de dynamisme. Je veux dire, on doit peut-être enlever les poils dans la main politique que nous avons, retrousser nos manches, mettre les mains dans le cambouis, aller au contact de la population, des entreprises, de l'agriculture. Donc, c'est se montrer vraiment proactif, dynamique. Donc, ça manque, cette commune. C'est dommage, parce qu'on voit, au niveau démographique, on a des belles choses. Ça bouge. Les gens viennent s'établir en Haute-Sorne. Et si on n'a pas de vision, si on n'a pas d'objectif, ce sera difficile. Et franchement, c'est dommage parce qu'on a bien beaucoup de belles choses à offrir.
Étienne Dobler, on a parlé de repeupler éventuellement les cœurs de village, les cœurs d'anciens, enfin les cœurs anciens des villages. Est-ce que ce serait aussi la clé, l'aspect économique, y placer des entreprises, y placer différents corps de métier?
Alors, il est évident que dans les cœurs de village, c'est impossible, hein, j'entends ça, on ne pourra pas. Mais par contre.
Pas forcément des entreprises, mais certains services.
Absolument, oui, si, ça c'est clair qu'on y travaille. D'ailleurs, le responsable du Dicaster a prévu au budget de l'année prochaine un montant pour la réhabilitation des centres anciens, hein, pour les gens qui voudraient rénover, pour avoir une aide, puisque vous savez que le canton a délié la bourse, hein, pour ce genre d'action maintenant, à condition que la commune suive également le mouvement. Donc de ce côté-là, on l'a prévu, on a mis un montant au budget. Je voudrais juste revenir deux minutes au niveau du développement économique. Il faut aussi savoir, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés avant, notamment des entreprises qui veulent venir, etc., il est clair que souvent, ces entreprises, au début des démarches, au début des projets, ils demandent de la discrétion. Hein ? On ne peut pas parler de leur projet sur la place publique, parce que souvent, au stade du projet, ils étudient donc un projet, et ensuite, ils doivent s'en référer à un conseil d'administration et autres. Et puis, pour avoir un projet, ben souvent, il faut qu'il soit chiffré. Donc, raison pour laquelle il y a déjà un pré-projet qui est établi. Puis, une fois que ce pré-projet est établi, évidemment, à ce stade-là, il y a des discussions avec les autorités communales. Mais lorsque vous rencontrez ces entreprises, ils demandent effectivement beaucoup de discrétion par rapport à tout ça. Mais pour en revenir au développement économique proprement dit, il faut savoir que ce n'est pas la course, hein, en ce qui nous concerne. Hein. Nous, ce qui est important, c'est d'avoir un développement mesuré, qui permettent d'avoir des ressources financières pour faire des investissements pour la population, mais ce n'est pas la course à tout prix à accueillir des entreprises qui grignoteront toujours de plus sur les terrains agricoles. Hein. Ce n'est pas du tout ça, hein, notre objectif. Hein. C'est d'avoir des ressources nécessaires pour le bien-être de la population de Haute-Saône. Et puis, une fois qu'on trouve cet équilibre, et puis là, c'est clair que, contrairement à ce que j'ai entendu de part et d'autre, on a vraiment une vision sur du très long terme. Pas du long terme, mais du très long terme là-dessus.
Valérie Sauterman, vous vouliez réagir rapidement,
oui,
peut-être?
Sur deux choses. Ben, j'entends bien, hein, l'histoire des entreprises qui veulent venir s'établir. Je vous rappelle juste qu'on est tenu au secret de fonction. Hein. Alors, en tant qu'infirmière, je sais bien ce que c'est que le secret de fonction. Je trouve malheureusement déplorable qu'au sein du conseil communal, il y ait une forme de censure aussi à ce niveau-là. Donc, c'est clair que moi, il y a des informations auxquelles je n'ai pas accès. Et je trouve ça plus que dommage. Alors, je ne suis pas uniquement, comment dire, une femme qui doit faire des choses. Et puis, quand on parle de stratégie qu'on doit mettre de côté, il faut faire avec tous les partis politiques. Et c'est des discussions stratégiques qui doivent avoir lieu au sein du Conseil communal. Voilà.
On a évoqué différents projets pour développer la commune tout à l'heure. Il y en a évidemment un qui retient toute l'attention en Haute-Saône, et ce depuis plusieurs années maintenant, c'est celui de géothermie profonde à Glovelier. Alors, avant de développer la thématique, brièvement, comment est-ce que vous vous positionnez dans ce dossier, Raoul Yagui ?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas une bonne question posée comme ça, mais je vais quand même vous répondre par un oui, par un non, mais à la fin de la réponse, si vous permettez. Moi, entre les gens qui ne veulent pas d'éoliennes parce que ça fait du bruit, puis parce que ça tue quelques oiseaux, et puis parce que je ne sais pas quel autre tard on y trouve, entre ceux qui veulent plus de nucléaire parce que c'est dangereux, et je crois qu'ils ont raison, moi, je veux de l'énergie. Moi, je veux pas remettre les gros pulls en laine et les sandales de Jésus. Je veux que, quand je presse sur le bouton, ça s'allume. Et mettre des panneaux solaires, je le prône, c'est bien, mais la nuit, ça produit pas, et l'hiver, ça produit peu, et c'est pas une solution satisfaisante. Il y a un projet qui, s'il réussit, parce que, évidemment, c'est la donnée essentielle, est susceptible de se multiplier et de produire de l'énergie en ruban. Et donc, moi, j'espère que ce projet réussisse. Et sous cet angle-là, j'y suis favorable. Évidemment, avec toutes les conditions et les mesures de sécurité qu'on peut y adjoindre.
On va en reparler. Valérie Sauterman, de votre côté.
Oui, alors, la géothermie, alors, je ne vais pas nier, en tant que citoyenne, hein, bien évidemment, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. En ce qui me concerne, je suis contre. Parce que j'en ai peur de ce projet. Et puis, je pense que c'est un projet qui montre, parce qu'il y a des opposants, il y a des pros, il y a des anti. Au sein de mon groupe, d'ailleurs, je trouve ça admirable, parce que même s'il y a des pros géothermie ou des anti-géothermie, on ne sait jamais manger le nez. Hein. Il y a toujours eu beaucoup de respect à ce niveau-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire en tant que politicien, d'amener des projets comme ça, pas sous cette forme, mais sur le... Oui, sous cette forme-là. On n'a pas eu de votation populaire, donc au final, on ne saura pas ce que pense la population. Et c'est vraiment délicat. Donc il y a des changements à amener dans la manière dont on gouverne, dans la manière dont on amène les projets, parce qu'on voit qu'il y a une forte résistance citoyenne, et ça, clairement, ben, ça ne va plus. J'aimerais juste préciser une chose. Je vais bientôt ne plus être propriétaire, copropriétaire de ma maison. J'aimerais dire à ces messieurs, je sais qu'ils sont propriétaires également, en tant que citoyenne à l'époque, hein, on avait décidé donc de racheter une maison, donc de ne pas empiéter sur la zone agricole, et on a revu complètement l'enveloppe du bâtiment, l'énergie du bâtiment, donc on est passé du fossile, de l'énergie fossile à des pellets. Alors j'aimerais bien savoir si ces messieurs, qu'est-ce qu'ils font en termes du point de vue énergétique pour améliorer au quotidien, parce que c'est ça aussi, hein, être politicien, c'est montrer l'exemple, l'exemplarité. Donc il est facile de dire aux gens, faites ceci, faites ça, mais concrètement, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous faites ?
On va rester dans le dossier de la géothermie profonde avec vous, Étienne Dobler. De manière générale, plutôt favorable, plutôt défavorable au projet ?
Un dossier qui me tient particulièrement à cœur, hein, puisque le projet est prévu sur le territoire du village de Glevelier, où j'y habite. Donc c'est clair que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais moi, de tout temps, donc, j'ai été préoccupé par l'environnement, hein, notamment les fortes atteintes qu'il peut y avoir à l'environnement, et que ces atteintes aient lieu sur ou sous terre, moi, je ne peux pas les accepter. Et puis, en termes de géothermie, moi, ce qui me fait vraiment peur, donc, c'est cette fracturation des roches. S'il n'y avait pas cette fracturation des roches, hein, il y avait des projets similaires, malheureusement, les résultats n'ont pas été probants. Hein. Je parle ici notamment de la Vée, où ils faisaient que de creuser pour chercher de l'eau chaude. Après, il n'y avait pas assez d'eau chaude. Bon, ben voilà. Mais par contre, pour ce qui est du projet de Glevelier, où on fracture la roche, moi, honnêtement, je ne peux pas adhérer, parce que c'est quand même à trop grand risque. Il faut quand même savoir que l'immense problème, c'est que quand on fracture de la roche à des profondeurs pareilles, à l'instant où ça commence de bouger, on fait quoi ? On est complètement démunis, on ne peut absolument plus rien du tout faire. Si c'est en surface, eh bien, on peut encore prendre des dispositions pour éviter que ça s'étale plus loin. Mais à des profondeurs telles que celle-là, on ne peut que constater, et puis on le voit dans d'autres régions d'Europe, hein, où la Terre a commencé de bouger. Plusieurs mois après, il y a encore des répliques. Et combien de temps vont-elles encore durer ? Donc, procéder à de la fracturation de roches dans des zones aussi fortement habitées, c'est pas correct.
On ne va pas refaire le débat. Simplement, Éric Dobler, vous êtes plutôt favorable, défavorable ?
Je suis défavorable à ce projet, donc je vais répondre clairement à votre question. On avait prévu qu'on réponde clairement à la question, mais je vois que tout le monde développe.
Vous donc pouvez aussi un peu développer, effectivement.
Je vais également développer, d'autant plus que les temps de parole ne me semblent pas vraiment très bien respectés. Le degré de maturité technologique, ainsi que la problématique de la sismicité, pose des défis. Ça vient du plan, des fiches du plan directeur cantonal. Augmenter le rendement énergétique pourra, avec la chaleur résiduelle, chauffer des appartements à distance. Une faible sismicité et puis une densité du bâti incomparable aux grands centres urbains rendent le canton du Jura très approprié. Voilà des points qui sortent des fiches du plan directeur cantonal, et c'est ces fiches, ces plans, ces éléments qui, moi, me font peur. Alors on peut se battre sur les aspects techniques, sur les chiffres. On trouvera toujours des experts qui ne seront jamais d'accord entre eux sur les débits des eaux, sur la sismicité, sur la pollution. Et moi, je crois que ce débat, il y a une question qui doit se poser maintenant au niveau de l'aspect politique, c'est quel est le degré d'acceptation du projet par la population ? C'est ça la question, la vraie question qu'il faut avoir sur ce projet. Moi, je regrette actuellement la cristallisation des positions sur ce projet, avec une situation qui ne permet plus à la population de se prononcer. Les rôles sont définis. Chaque service de l'État a ses tâches. La commune a le sien. Moi, je proposerais qu'on mette en place un vote indicatif au niveau de la commune de Haute-Sorne pour savoir comment les citoyennes et les citoyens acceptent ce projet. Et ça, je suis persuadé que les promoteurs l'entendront.
Alors on sait que la commune, elle a finalement qu'une marge de manœuvre vraiment limitée dans ce dossier. Là, on est suspendu à la validité du permis, hein, qui est remise en cause. Mais si le projet se poursuit, finalement, quel rôle la commune, elle doit avoir dans ce dossier, Étienne Dobler ?
Notre rôle est extrêmement limité, ça a été dit. Donc la politique énergétique en Suisse, elle est régie par des autorités fédérales et cantonales. Les communes n'ont pas droit à la parole dans le domaine. Si on voulait construire sur la Sorne une centrale hydroélectrique, on ne pourrait pas, ça c'est clair. Donc j'entends le plan spécial qui a été établi pour le projet de géothermie, il a été réglé par le canton. On n'avait pas de permis à délivrer puisque ça a été fait par le biais du plan spécial délivré par le canton. Donc c'est clair que la marge de manœuvre au niveau communal, c'est très élevé. Quant à la proposition d'Éric Dobler au sujet de la consultation, moi je pense qu'effectivement, pour tous ces grands projets, on devrait pouvoir consulter la population. On ne parle pas uniquement de la géothermie, les éoliennes également. On voit les problématiques.
Restons dans la géothermie.
Pardon, oui. Alors, je pense qu'il est quand même important que pour tous ces grands projets à l'avenir, que la population soit consultée. Et puis, juste une petite remarque par rapport à ce que disait Valérie Solterma tout à l'heure au niveau de notre approche au quotidien. Lorsque nous avions construit notre maison familiale à Glovelier il y a plus de 30 ans, on y avait installé de la géothermie pour chauffer notre maison. Mais là, ce n'était pas de la géothermie profonde, il n'y avait pas de fracturation de roche, on descendait à 110 mètres. Ça fait 30 ans que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien. Donc on a aussi fait notre part de devoir au niveau énergétique.
Éric Dobler, on l'entend, on le dit, le répète, la commune n'a qu'une marge de manœuvre limitée, les mains quelque part liées. Finalement, on est suspendu à la décision d'autrui, on doit se laisser faire.
Non, mais je crois que la commune doit montrer qu'elle n'est pas d'accord. Elle doit utiliser tous les arguments qu'elle peut utiliser, et la consultation en est un.
C'est piquant, quand même. Oui, je trouve piquant. Honnêtement, je trouve piquant. Alors, je fais partie de l'exécutif depuis 4 ans maintenant. La géothermie au sein de l'exécutif, on en parle seulement depuis cette année. Sinon, ça a été un sujet qu'on n'a pas abordé. Donc, quand je dis proactivité, donc je vous entends, les partis politiques traditionnels, hormis le PVL, bien évidemment, mais c'est quand même piquant. Donc, non. D'utiliser ça pour les votations, je trouve ça vraiment dommage.
Je rappelle, c'est pas nous qui l'utilisons. J'entends, on répond à des questions,
oui,
on explique.
Mais je trouve piquant parce que c'est bien grâce cause des partis traditionnels que ce projet de géothermie verra le jour en Haute-Sorne. Donc voilà, ce qui est important maintenant, c'est qu'effectivement, légalement, on ne peut rien faire par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire ? Protéger la population. Et ça, c'est impératif. Moi, j'ai un souci aussi en tant que pour l'alimentation en eau potable. On va mettre à un endroit, donc on parle de géothermie. Pour nous, Haute-Sorne, c'est le nœud central de l'alimentation en eau potable. On parle de conduite d'hydrogène. Donc, ce serait important qu'on puisse en débattre au sein de l'exécutif, voire avec les instances cantonales. Donc, voilà.
Raoul Guy.
Oui. Bon, moi, je ne vais pas venir sur des aspects techniques et faire une guerre avec ça. J'ai donné ma position. J'entends quand même des choses qui me dérangent. Consulter, c'est bien. Moi, je suis démocrate. J'aime bien quand on consulte le peuple. Mais il faut juste voir à quel moment on le fait. On a déjà consulté le Parlement alors qu'il n'avait plus d'avis à donner, ce qui a créé une confusion dans la population. Le Parlement a dit non. En fait, le Parlement n'a dit rien du tout puisqu'il n'avait pas à se prononcer sur ce dossier. On est dans un dossier où il y a eu des opposants. Moi, je comprends qu'on puisse avoir peur. J'ai pas de problème avec ça. Voilà. Les opposants ont fait des recours. Ils ont épuisé toutes les voies de recours jusqu'au tribunal fédéral. Et vous aimeriez qu'on consulte les gens pour voir si on respecte ou non la décision du tribunal fédéral. Moi, je pense qu'on a un vrai problème avec ça. Par contre, je suis pas d'accord quand on dit que la commune a les pieds et poings liés et n'a pas de marge de manœuvre. D'une part, elle en a une, parce qu'elle a été partie prenante, elle a signé une convention au départ. Il faut se rappeler qu'en 2015, personne n'était contre cette géothermie profonde. Mal renseigné, peu importe, mais personne n'était contre. Donc la commune a eu un rôle à jouer, elle a signé une convention, et aujourd'hui, elle a encore un rôle à jouer, se met sur pied une commission de suivi à l'image de ce qui s'est passé à Bonfol, une commission dont tous les débats seront publics et transparents, et on pourra intervenir, la commune, faire porter la voix de la commune et des habitants. Il y aura quelques personnes qui seront désignées dans la commune pour siéger dans cette commission et surveiller l'évolution de ce projet.
Justement, Éric Dobler, si le projet devait continuer, la transparence, l'information à la population, c'est une des clés.
Alors je dis bien si le projet doit continuer. Si le projet doit continuer, je pense que l'information est effectivement une des conditions sine qua non à ce que la population soit informée et puis à ce que c'est un minimum qu'on puisse faire d'informer les gens à ce niveau-là.
Pour vous aussi, Étienne Nobler.
Oui, tout à fait. Raoul Yegui parlait de, prenait comme exemple Bonfol, hein, où les débats des commissions étaient publics, retransmis, on pouvait les réécouter par la suite. Moi, je trouve que c'est une bonne voie, c'est une bonne piste, et puis là, ça permettra à chacun de se faire une idée du dossier où il en est.
Valérie Soltermann, pour terminer ce tour de table avec ce « si ça continue », vous êtes aussi favorable à ce que ce soit transparent, et si oui, de quelle manière ?
Bien évidemment que ce soit transparent, et puis qu'on s'approche aussi des anti-géothermies, et puis qu'on puisse discuter, mais il faut être aussi à l'écoute, parce qu'on voit que ce projet pose problème. Et je le redis, je pense qu'il faut politiquement qu'on gouverne différemment quand il y a un impact sur la population, quand il y a un impact au niveau des entreprises aussi, et puis au niveau agricole, on n'est pas tout seul, hein. Nous ne sommes pas tout seuls.
On arrive bientôt au terme de ce débat. On va revenir dans le débat. On vous propose une dernière question, un dernier tour de table pour nous dire finalement comment vous voyez la commune de Haute-Saône dans 5 ans, donc au terme de la prochaine législature. On commence peut-être avec vous, Raoul Yegui. Comment vous voyez cette commune dans 5 ans?
Comment je la vois dans 5 ans, sur quel plan? Parce que la question, elle est un peu large. Je pense pas qu'il n'y aura pas de révolution.
C'est votre mot final.
J'espère que le projet aboutisse sans problème et qu'on ait de l'énergie renouvelable à foison. Et j'espère que les dysfonctionnements, parce qu'on peut les appeler comme ça, au sein de l'exécutif communal, s'effacent et s'estompent. Moi, je n'ai pas tenu compte de... J'ai pas tenu de liste de présence, hein, mais je peux vous assurer que Valérie Soltermann, en principe, elle est là aux séances et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est à fond dans ses dossiers.
Étienne Nobler, le mot de la fin pour vous avec votre vision de la commune dans 5 ans.
Alors, je suis très optimiste parce qu'on a vraiment de très beaux projets pour la commune. Et puis, elle dépendra bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, du plan d'aménagement local qui est la colonne vertébrale. Mais si le canton ne nous met pas trop d'entraves par rapport à nos propositions, eh bien, on a vraiment de très, très belles perspectives pour l'avenir de Haute-Saône, ça c'est certain. Un point aussi sur lequel je voudrais revenir par la suite, on n'a pas du tout abordé la problématique des relations commune-canton. Et puis là, il est bien clair qu'on devra remettre ça sur la table aussi, parce qu'on a une marge de manœuvre qui est extrêmement étroite au niveau de la commune. Et puis c'est des fois dommage, parce que dans bien des domaines, notamment dans tout ce qui est de l'aménagement du territoire, on a vraiment l'impression d'être sous tutelle. Et puis des fois, on devrait pouvoir être un peu plus libre, pouvoir développer des projets d'une manière un peu plus autonome, ce qui nous permettra encore d'être meilleurs qu'on l'est actuellement.
Valérie Soltermann, votre vision pour la commune, un peu plus sur le long terme?
Alors, ma vision, elle se discutera avec la prochaine législature. Je ne vais pas parler de vision, je vais plutôt parler de dire, je suis l'une des conseillères communales qui a mené le plus de projets. On m'a mandaté, je suis un couteau suisse au niveau du conseil communal. Donc, en plus de mon dicastère qui était déjà chargé, je vous garantis que je ne respectais pas mon 25%, c'est plus du 100% à certains endroits. J'apprécie que mes collègues soulignent le peu de fois où j'ai été absente, que je trouve indélicat de leur part, bien évidemment. J'ai été aussi mandatée pour faire l'aménagement crèche UAPE. C'était une belle réussite. On a des soucis en Haute-Saône. Sont-ils politiques? Pour moi, pas. Ils sont humains. Il faut rappeler aussi que je suis arrivée au sein du conseil communal sur fonds d'enquête du CFI, sur fonds d'enquête disciplinaire également. Eh bien, je suis là, je suis intègre, je respecte les dispositions légales et puis je souhaite que le conseil communal en fasse de même, dans la transparence, dans la communication. C'est pour ça aussi que mon groupe s'est constitué, pour être très actif aussi, pour faire respecter des principes fondamentaux qui sont le devoir pour une bonne gestion communale.
Voilà. Éric Dobler, comment doit-on envisager...
Bravo. S'il vous plaît.
Éric Dobler, comment doit-on envisager la commune dans 5 ans avec vous à sa tête?
Alors moi, je ne vais pas vous parler de la commune dans 5 ans. Moi, je vais vous dire ce que je souhaite pour cette commune. Parce que ce que j'ai entendu ici ne me rassure pas à 100% sur le fonctionnement. Et je pense qu'il y a des changements à apporter. Je pense que cette commune de Haute-Saône, elle a une certaine singularité dans sa disparité démographique de ses composants. C'est un déséquilibre sur le plan institutionnel qui n'est pas compensé par l'assurance d'une compensation au niveau des autorités. Mais ça a été voulu par les instigateurs du comité de fusion et ça a été validé par le corps électoral. Donc en fait, si 5 communes ont été dissoutes le 1er janvier 2013, il reste quand même 5 localités et 2 hameaux qui font l'identité propre de cette commune de Haute-Saône. Moi, je m'engage, si je suis élu, à ne pas perdre de vue cette réalité, à continuer à m'investir pour cette commune qui m'a vu grandir. Et puis, moi, je ferai tout pour qu'on s'y sente toujours mieux.
Merci. On arrive déjà au terme de ce débat. Merci à vous, candidat.
Écoutez votre fidélité. Merci au public aussi qui s'est déplacé en nombre aujourd'hui du côté de Basse-Cour. Merci à l'équipe technique tout derrière qui nous a accompagnés aujourd'hui.